Souvenirs, troisième partie, Jeunesse, chapitre 73. Le mariage de mon père. Mon père avait 48 ans lorsqu'il se remaria avec Eudoxie Vassilievna Epiphane. Je me figure qu'au printemps, quand il était parti pour la campagne, seul avec les filles, mon père s'était trouvé dans l'état d'esprit assez dangereux où sont généralement les joueurs lorsqu'ils s'arrêtent après avoir beaucoup gagné. Ils sont alors d'humeur libérale et disposés à être heureux. Mon père sentait qu'il lui restait encore une grosse provision de chance. Faute de la dépenser aux cartes, il pouvait l'employer à avoir des succès d'autre sorte. En outre, c'était le printemps. Il se trouvait à la tête d'une grande somme d'argent sur laquelle il n'avait pas compté. Il était seul et il s'ennuyait. Je m'imagine que, causant affaire avec Yakov et venant à se rappeler et l'interminable procès avec les Epiphanes et la belle Eudoxie, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, il dit à Yakov « Sais-tu, Yakov, le moyen de nous tirer de ce procès ? J'ai envie de leur abandonner tout simplement cette maudite terre. Hein ? Qu'est-ce que tu en dis ?» Je me représente les doigts de Yakov frétillant négativement derrière son dos, et je l'entends démontrer que le bon droit était de notre côté. Mais papa donna l'ordre d'atteler, mit son habit olive à la dernière mode, peigna en arrière son reste de cheveux, versa de l'eau de senteur sur son mouchoir, et partit pour aller chez ses voisins, ravi de l'idée qu'il agissait en grand seigneur, et encore plus ravi de l'espoir de voir une jolie femme. J'ai su seulement que, le jour de sa première visite, papa ne trouva pas le fils qui était dans les champs, et resta seul une bonne heure avec les dames. Je me le représente, se répandant en amabilité, tapant du pied avec ses souliers plats, sifflotant en parlant, faisant ses petits yeux tendres et ensorcelant la mère et la fille. Je me représente aussi la gaie petite vieille, se prenant tout de suite de passion pour lui, et sa belle statue de fille s'animant. Comme j'ai souvent vu papa depuis cette époque avec les Epiphanes, cette entrevue est pour moi comme si j'y avais assisté. Lioubotchka me raconta qu'avant que nous fussions arrivés, Volodia et moi, papa ne passait pas un jour sans voir les Epiphanes et était extraordinairement en train. Avec son talent pour faire les choses d'une manière à lui, tournant tout en plaisanterie, et sachant néanmoins rester naturel et élégant, papa inventait tantôt une partie de chasse, tantôt une partie de pêche, tantôt un feu d'artifice, et toujours les Epiphanes en étaient. « Ça aurait été encore bien plus amusant, » disait Lioubotchka, « sans cet insupportable Pierre Vassilievitch, qui soufflait, bégayait et dérangeait tout. » Depuis notre arrivée, les Epiphanes n'étaient venus que 2 fois chez nous, et nous étions allés 1 seule fois, tous ensemble, chez eux. À partir de la Saint-Pierre, qui était la fête de papa, et où ils vinrent à la maison ainsi qu'une foule d'autres personnes, les relations cessèrent complètement en ce qui nous concernait. Papa seul continua à faire des visites. Pendant le peu d'instants où je vis papa avec Eudoxie, voici ce que je remarquais. Il était invariablement dans l'heureux état d'esprit qui m'avait frappé le jour de notre arrivée, si gai, si jeune, si plein de vie et si content, que son bonheur rayonnait sur tous ceux qui l'entouraient et se communiquait à eux. Il ne quittait point Eudoxie d'un pas tant qu'elle était dans la chambre. Tantôt il l'accablait de compliments si fades que j'en avais honte pour lui. Tantôt il la regardait sans rien dire. Et alors, son toussaillement et son tic avaient un je ne sais quoi de passionné et de satisfait. Quelquefois aussi, il lui parlait à demi-voix, en souriant. Tout cela sans perdre jamais cet air de faire les choses pour rire, qui lui était particulier et qu'il conservait dans les moments les plus sérieux. Eudoxie Vassilievna semblait refléter l'air heureux de papa. On voyait briller le bonheur dans ses grands yeux bleus. Sauf quand elle était prise soudain de tels accès de timidité que moi, qui savais ce que c'était, j'en souffrais pour elle et il m'était pénible de la regarder. Dans ces instants-là, on ne pouvait tourner les yeux ou faire un mouvement sans qu'elle eût peur. Il lui semblait que tout le monde la regardait, qu'on n'était occupé que d'elle et qu'on critiquait tout en elle. Alors, elle promenait sur les assistants des yeux effarés, rougissait et pâlissait alternativement, se mettait à parler haut et hardiment, disait des sottises, s'en apercevait, sentait que tout le monde, y compris papa, l'écoutait et rougissait encore plus. Dans ces occasions, papa ne remarquait pas les sottises et il continuait à toussailler d'une toux passionnée et la contemplait avec une expression de joyeux orgueil. Je remarquai que ces accès de timidité prenaient quelquefois à Eudoxie Vassilievna sans aucune raison, mais que d'autres fois il survenait quand on avait parlé devant papa d'une femme jeune et jolie. Les fréquents changements d'humeur d'Eudoxie Vassilievna, ces brusques passages de la mélancolie à la gaieté forcée, l'habitude de se servir des expressions favorites de papa lorsqu'elle continuait avec d'autres une conversation commencée avec lui. Tout cela, s'il ne s'était pas agi de mon père et si j'avais été plus âgé, m'aurait éclairé sur les sentiments qui existaient entre eux. Mais je n'eus aucun soupçon, pas même lorsque je vis papa recevoir une lettre de Pierre Vassilievitch, en être bouleversé et cesser d'aller chez les voisins. À la fin d'août, papa recommença ses visites. Et la veille du jour où je devais partir pour Moscou avec Volodia, il nous annonça son mariage avec Eudoxie Vassilievna Epiphane. Chapitre 74. Comment nous accueillîmes cette nouvelle. La veille de cette communication officielle, toute la maison savait déjà la nouvelle, et chacun la commentait à sa façon. Mimi ne sortit pas de sa chambre et pleura toute la journée. Catherine resta enfermée avec elle et ne se montra qu'au dîner, où elle parut avec un air si offensé qu'elle avait évidemment emprunté à sa mère. Lioubotchka paraissait enchantée et elle déclara à table qu'elle savait un beau secret qu'elle ne raconterait à personne. « Il n'y a rien du tout de beau dans ton secret, » lui dit Volodia, qui ne partageait pas sa satisfaction. « Si tu étais capable d'avoir une idée sérieuse, tu comprendrais que c'est, au contraire, très malheureux. » Lioubotchka, étonnée, le regarda fixement et se tut. Après le dîner, Volodia fit le geste de me prendre le bras. Il se ravisa, réfléchissant sans doute que se donner le bras était une marque de tendresse, et se contenta de me pousser le coude en me faisant signe de la tête de le suivre dans la grande salle. « Tu sais, » me dit-il après s'être assuré que nous étions seuls, « de quel secret Lioubotchka voulait parler ?» Il nous arrivait rarement de causer en tête-à-tête et de choses sérieuses. Aussi, dans ces cas-là, nous sentions-nous tous les deux gênés. Mais cette fois, en réponse à l'embarras qu'il lisait sur mon visage, Volodia continua à me regarder fixement, les yeux dans les yeux, d'un air grave qui voulait dire « Il n'y a pas de quoi se troubler, nous sommes frères, après tout ». Il s'agit d'une affaire de famille importante, et il est de notre devoir d'en causer ensemble. Je le compris, et il poursuivit. Tu sais que papa se marie avec mademoiselle Epiphane. J'inclinai la tête, j'en avais entendu parler. C'est extrêmement malheureux, continua Volodia. Pourquoi? Mais comment pourquoi? Dit-il avec impatience. Il est vraiment très agréable d'avoir pour oncle cette espèce de bègue. Et toute cette parenté, elle, pour le moment, on voit seulement qu'elle est bonne personne. Qui sait ce qu'elle sera plus tard? Ça nous est bien égal quant à nous, mais il y a Lyubotchka qui ira bientôt dans le monde. Ce ne sera pas très agréable avec une belle-mère pareille, qui parle abominablement le français et qui lui donnera on ne sait quelle manière. C'est une poissarde !» conclut Volodia, évidemment très satisfait de ce mot de « poissarde ». Cela me faisait un singulier effet d'entendre Volodia juger avec ce sang-froid le choix de papa. Mais je trouvais qu'il avait raison. « Pourquoi est-ce que papa se marie ? » demandai-je. « Dieu le sait, c'est la bouteille à l'encre. Je sais seulement que Pierre Vassilievitch l'a engagé à se marier, l'en a même sommé, que papa ne voulait pas, et qu'ensuite il lui a passé une fantaisie par la tête, une idée chevaleresque. C'est la bouteille à l'encre. Je commence seulement à comprendre notre père. » Ce nom de « père » au lieu de « papa » me frappa douloureusement. « Il est excellent homme, » poursuivit Volodia. « Bon et intelligent, mais d'une légèreté, une vraie girouette. Il ne peut pas avoir une femme de sang-froid, c'est incroyable. Tu sais qu'il n'en a pas connu une seule dont il ne soit devenu amoureux, jusqu'à Mimi. » « Tu dis ?»« Je dis que j'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'il avait été amoureux de Mimi quand elle était jeune. Il lui faisait des vers, et il y a eu quelque chose entre eux. Mimi en souffre encore. » Volodia éclata de rire. « Pas possible !» m'écriai-je stupéfait. « La grande affaire !» reprit Volodia redevenu sérieux. « C'est notre famille. Ce mariage va lui faire grand plaisir, sans compter que Doxy aura sûrement des enfants. » Je fus tellement frappé du bon sens de Volodia et de sa prévoyance que je ne sus que répondre. À cet instant, Lyubotchka va nous rejoindre. « Alors, vous savez ?» dit-elle avec une figure épanouie. « Oui, » répondit Volodia. « Seulement, une chose m'étonne, Lyubotchka. Tu n'es plus une enfant au maillot. Comment peux-tu être contente que papa épouse une rien du tout ?» Le visage de Lyubotchka se rembrunit et elle réfléchit. « Volodia, pourquoi une rien du tout ? Comment oses-tu parler ainsi de Doxy ? Puisque papa l'épouse, c'est que ce n'est pas une rien du tout. » « Bon, une rien du tout, c'est une manière de parler, mais tout de même. » « Il n'y a pas de tout de même, » interrompit Lyubotchka en s'échauffant. « Je ne t'ai pas dit, moi, que cette demoiselle dont tu étais amoureux était une rien du tout. Comment oses-tu parler ainsi de papa et d'une femme charmante ? Tu as beau être mon aîné, je te dis de te taire. C'est mal. Tais-toi. » « Est-ce qu'on ne peut pas avoir son opinion sur... » « Non !» interrompit encore Lyubotchka. « Il n'est pas permis de juger un père comme le nôtre. Mimi peut juger, mais pas toi, le fils aîné. » « Tu ne comprends rien à rien !» dit Volodia d'un ton dédaigneux. « Voyons, est-ce que tu trouves bien qu'une demoiselle Épiphane vienne prendre la place de ta maman ?» Lyubotchka se tut un instant et ses yeux se remplirent de larmes. « Je te savais orgueilleux, » dit-elle enfin. « Je ne te croyais pas si méchant. » Elle sortit. « Attrape !» dit Volodia en faisant une mine tragicomique. « Allez donc raisonner avec des filles !» ajouta-t-il comme s'il se reprochait de s'être oublié jusqu'à s'abaisser à discuter avec Lyubotchka. Le lendemain matin, il faisait mauvais temps, et ni papa ni les dames n'étaient encore à prendre le thé quand j'entrais au salon. On sentait l'automne. Il était tombé pendant la nuit une pluie froide. Des restes de nuages couraient dans le ciel. Le soleil, déjà haut, apparaissait comme un rond clair. Il y avait du vent, il faisait humide et gris. La pluie avait formé des flaques d'eau sur la terrasse, dont la terre mouillée semblait plus noire. La porte du jardin, demeurée ouverte, battait sur ses gonds de fer. Les allées étaient boueuses. Les vieux bouleaux aux branches dépouillées, les arbustes, le gazon, les orties, les groseilliers, les sureaux, faisant voir le revers blanc de leur feuillage, tout se courbait dans le même sens sous un ouragan qui paraissait vouloir tout déraciner. Dans l'allée de tilleuls, des tourbillons de feuilles jaunies se poursuivaient. À mesure que l'humidité les avait pénétrées et alourdies, elles s'abattaient sur le chemin détrempé, ou sur la prairie, devenue d'un vert plus sombre sous la pluie. Je songeais au mariage de mon père, et je l'envisageais au même point de vue que Volodia. L'avenir de ma sœur, de nous et de mon père lui-même ne me présageait rien de bon. J'étais révoltée à l'idée qu'une étrangère, et qui plus est, une jeune femme, allait prendre tout à coup, sans y avoir aucun droit, une place dans notre vie. Et qui ? Une simple jeune demoiselle. Et elle va prendre la place de maman. J'étais tout triste, et mon père me paraissait de plus en plus coupable. J'entendis sa voix et celle de Volodia. Ne voulant pas voir mon père en ce moment, je sortis. Ma sœur me rappela en me prévenant que papa voulait me parler. Il était debout dans le salon, appuyé d'une main sur le piano, et regardait de mon côté avec un mélange d'impatience et de solennité. Son visage n'avait plus l'expression de jeunesse et de bonheur que je lui avais toujours vue dans les derniers temps. Il était triste. Volodia se promenait de long en large en fumant sa pipe. Je m'approchai de mon père et lui souhaitai le bonjour. « Eh bien, mes amis, » dit-il résolument, relevant la tête et prenant ce ton précipité tout particulier dont on dit les choses désagréables, sur lesquelles il n'est plus temps de revenir. « Vous savez, je suppose, que je me marie avec Doxy Vassilievna. » Il se tut un instant et reprit. « J'avais l'intention de ne jamais me remarier après avoir perdu votre mère, mais... » Il s'arrêta quelques secondes. « Mais, évidemment, le sort l'a voulu. Eudoxie est une bonne et aimable fille, et elle n'est plus toute jeune. J'espère que vous l'aimerez, enfant. Elle vous aime déjà du fond du cœur. Elle est excellente. Le moment est venu pour vous. » Il s'adressait à mon frère et à moi, et parlait vite, comme pour nous empêcher de l'interrompre. « Le moment est venu pour vous de partir. » Je vais rester ici jusqu'au nouvel an, et je reviendrai alors à Moscou. » Il se troubla. « Avec ma femme et votre sœur. » Je souffrais de voir mon père intimidé, et comparaissant devant nous, pour ainsi dire, en accusé. Je me rapprochai de lui. Volodia continuait à se promener de long en large, en fumant sa pipe et la tête baissée. « Voilà, mes amis, ce que votre vieux papa a décidé. » Reprit mon père en rougissant, en toussaillant et en nous tendant les deux mains. Il avait les larmes aux yeux, et je remarquai que la main qu'il tendait à Volodia, en ce moment à l'autre bout de la chambre, tremblait un peu. La vue de cette main tremblante me fit mal, et il me vint la réflexion bizarre, qui me remua encore davantage, que papa était à l'armée en 1812 et qu'il était connu pour être très brave. Je retins sa grande main à grosses veines et la baisai. Il serra vigoureusement la mienne et tout à coup, éclatant en sanglots, il prit la tête brune de Lioubotchka dans ses deux mains et se mit à l'embrasser sur les yeux. Volodia fit semblant d'avoir laissé tomber sa pipe, se baissa, s'essuya tout doucement les yeux avec le poing et sortit en s'efforçant de ne pas attirer l'attention. Chapitre 75. Affaire de cœur. Le mariage devait avoir lieu dans 15 jours, mais la rentrée des cours était avant, et nous partîmes pour Moscou, Volodia et moi, au commencement de septembre. les Nikliudov rentrèrent aussi de la campagne. Dmitri, nous nous étions promis, en nous quittant, de nous écrire, et bien entendu, nous n'en avions rien fait. Vint aussitôt me voir, et ce fut lui qui me conduisit la première fois à l'université. J'eus de nombreuses affaires de cœur cet hiver. Je fus amoureux trois fois. La première fois, je devins éperdument épris d'une très grosse dame que je voyais au manège Freytag. Elle y venait le mardi et le vendredi. Je ne manquais jamais d'être au manège ces jours-là. Mais j'avais une telle peur d'être aperçu d'elle, je me plaçais si loin, je me sauvais si vite des endroits où elle devait passer, j'avais si grand soin de me retourner quand elle regardait de mon côté, que je ne vis jamais bien sa figure, et que je ne sais pas encore si elle était jolie. Dubkov connaissait cette dame. Il me trouvait perpétuellement au manège, caché derrière les laquais qui tenaient les manteaux, et il avait su ma passion par Dmitri. Il m'offrit de me présenter. J'eus une telle peur que je m'enfuis à toutes jambes, et que la seule idée qu'il avait parlé de moi à mon amazone m'empêcha de retourner au manège, même derrière les laquais, de peur de la rencontrer. Quand j'étais amoureux d'inconnus, surtout si elles étaient mariées, j'étais encore 100 fois plus intimidée qu'avec Sonia. Je tremblais par-dessus tout que mon objet n'apprît ma passion, ou même mon existence. Il me semblait que si elle venait à savoir le sentiment qu'elle m'inspirait, elle se trouverait offensée à ne jamais me le pardonner. Et en effet, si l'Amazone avait pu lire dans mon âme, pendant que je la regardais de derrière les laquais, comment je l'enlevais en imagination et ce que je faisais d'elle à la campagne où je la menais, elle aurait peut-être eu de justes raisons d'être offensée. Je ne pus jamais me mettre dans la tête qu'elle ne devinerait pas à l'instant toutes les idées qu'elle m'inspirait, et que par conséquent, il n'y avait rien de déshonorant à faire simplement sa connaissance. La seconde fois, je devins amoureux de Sonia, que j'avais vue chez ma sœur. Il y avait longtemps que ma seconde passion pour elle s'en était allée, mais je m'épris une troisième fois un jour où Lioubotchka me montra un cahier de vers copié par Sonia. On y voyait le démon de Lermontov. Les endroits de passion ténébreuse étaient soulignés à l'encre rouge et la page marquée avec une fleur. Je me rappelais avoir vu Volodia, l'année d'avant, baiser la bourse de sa demoiselle. J'essayais de l'imiter, et en effet, quand j'étais seule le soir dans ma chambre, occupée à rêver en regardant la fleur, et que j'approchais celle-ci de mes lèvres, je me sentais dans un état d'âme agréable. Je redevins ainsi amoureux, ou du moins, je me le figurais pendant quelques jours. La troisième fois, ce fut d'une demoiselle qui venait chez nous et dont Volodia était épris. Autant que je m'en souvienne, cette demoiselle n'était pas jolie du tout et n'avait surtout rien de ce qui me plaisait d'ordinaire. Elle était fille d'une dame de Moscou, connue par son instruction et son esprit. Elle-même était petite, maigre, avec un profil mince et de longues anglaises blondes. Elle passait pour être encore plus savante et plus spirituelle que sa mère. Mais je ne pus jamais en juger, car son esprit et sa science m'inspiraient une sainte frayeur, tellement que je causais une seule fois avec elle. Et encore, ce fut avec des palpitations inouïes. Néanmoins, l'enthousiasme de Volodia, qui ne se gênait jamais pour l'exprimer devant le monde, me gagna si bien que je devins passionnément amoureux de cette demoiselle. Je n'en dis rien à Volodia, sentant qu'il lui serait désagréable que deux frères fussent épris de la même jeune fille. Pour moi, au contraire, ce qui me causait le plus de plaisir dans mon sentiment, c'était la pensée que notre amour était si pur que, tout en aimant le même objet charmant, nous restions bien ensemble et prêts, en cas de besoin, à nous sacrifier l'un à l'autre. Je dois dire que Volodia n'avait pas l'air tout à fait de mon avis quant à la disposition à se sacrifier, car il était tellement épris qu'il voulut se battre avec un diplomate, un vrai celui-là, qui devait, disait-on, épouser la demoiselle. Si j'étais ravi pour ma part à la pensée de sacrifier mon amour, c'est peut-être que cela ne m'aurait guère coûté. Une seule fois, j'eus une conversation élevée avec cette demoiselle, sur la musique savante, et j'eus beau faire, ma passion s'envola la semaine suivante. Chapitre 76. Les Nekliudov. Je voyais très souvent la famille Nekliudov, avec laquelle je commençais à me lier. Les dames ne sortaient jamais le soir, et la princesse aimait à avoir du monde, de la jeunesse, des hommes, capables de passer une soirée sans jouer ni danser. Il paraît que l'espèce en était rare, car je ne rencontrais presque jamais personne chez eux, bien que j'y allasse presque tous les soirs. J'étais habitué à cette famille et à ses diverses humeurs. Je me rendais bien compte de leurs relations mutuelles. J'étais accoutumé à la maison et aux meubles, et quand il n'y avait pas d'étrangers, je me sentais tout à fait à l'aise. Il faut excepter les cas où je me trouvais en tête à tête avec Varenka. Je me figurais toujours qu'en sa qualité de fille laide, elle mourait d'envie que je devinsse amoureux d'elle. Cependant, même cet embarras-là commençait à passer. Varenka était si naturelle, et l'on voyait si bien qu'elle ne tenait pas plus à causer avec moi qu'avec son frère ou avec Lyubov Sergeïevna, que je pris de mon côté l'habitude d'être avec elle tout simplement, comme avec une personne à qui l'on peut montrer sans honte ni danger le plaisir que vous cause sa société. Pendant tout le temps qu'a duré notre connaissance, je l'ai trouvée journalière, tantôt très laide, tantôt pas trop mal. Mais je ne me suis pas demandé une seule fois si j'étais amoureux d'elle. Il m'arrivait de lui parler, mais le plus souvent, je causais avec elle indirectement, en m'adressant à Lyubov Sergeïevna ou à Dmitri. Je préférais ce dernier canal. J'éprouvais un grand plaisir à parler devant elle, à l'écouter chanter et à la savoir dans la chambre. Je me demandais rarement ce qu'il adviendrait de notre liaison. Quand il m'arrivait d'y songer, me trouvant satisfait du présent, je m'efforçais inconsciemment de ne pas penser à l'avenir. Malgré notre intimité, je jugeais indispensable de cacher mes sentiments et mes penchants véritables à tout le cercle Nekliudov, et surtout à Varenka. Je travaillais à me montrer tout autre que je n'étais et que je ne pouvais être. Je me posais en homme passionné et enthousiaste. Quand quelque chose était censé me plaire, je poussais des « Ah !» et je faisais de grands gestes. En même temps, si j'étais témoin d'un événement extraordinaire, ou qu'on m'en parlât, j'affectais l'indifférence. Je prenais des airs d'affreux moqueurs pour qui rien n'est sacré, et en même temps d'observateur subtil. Je m'efforçais de paraître logique dans toutes mes actions, exact et précis dans les choses de la vie, et en même temps plein de mépris pour tout ce qui est matériel. J'ose dire que je valais beaucoup mieux que l'être bizarre que je faisais semblant d'être. Les Nekliudov m'aimaient tel quel. Heureusement pour moi, ils ne se laissaient pas prendre à mes poses. La seule Lyubov Sergeïevna, me considérant comme un épouvantable égoïste qui ne croyait à rien et se moquait de tout, avait l'air de ne pas m'aimer. Nous nous disputions souvent. Elle se fâchait et me foudroyait de ses phrases incohérentes. Sa situation vis-à-vis de Dmitri n'avait pas changé. Leur rapport était plus bizarre que tendre. Dmitri disait que personne ne la comprenait et qu'elle lui faisait énormément de bien. Leur intimité continuait à affliger toute la famille. Un jour, que Varenka me parlait de ce penchant incompréhensible pour nous tous, elle me l'expliqua comme il suit. Dimitri a de l'amour-propre, il a trop d'orgueil. Avec toute son intelligence, il aime à être loué et admiré, à être partout le premier. Pauvre tante, dans l'innocence de son âme, est en admiration devant lui et n'a pas assez de tact pour le lui cacher. Il en résulte qu'elle le flatte et c'est chez elle très sincère. Pour une raison ou pour une autre, je commençais à mieux aimer voir Dmitri dans le salon de sa mère qu'en tête à tête. Chapitre 77. Mon amitié avec Nekliudov. Vers cette même époque, mon amitié avec Nekliudov ne tint qu'à un fil. Il y avait trop longtemps que je l'examinais pour ne pas lui découvrir des défauts. Or, dans la première jeunesse, nous ne savons pas aimer autrement que passionnément, et par conséquent, nous n'aimons que les gens parfaits. Le brouillard de la passion ne tarde guère à s'éclaircir, ou à être percé involontairement par la lumière de la raison. Nous commençons à voir l'objet de notre passion tel qu'il est, avec un mélange de qualités et de défauts, mais nous ne sommes frappés que des défauts, qui nous prennent par surprise et que nous grossissons. L'amour de la nouveauté et l'espoir que la perfection peut se trouver ailleurs nous refroidissent, et même quelque chose de plus pour notre ancienne idole. Ils nous la font prendre en aversion. Nous l'abandonnons sans le vouloir, et nous courons plus loin, à la recherche d'une nouvelle perfection. Si ma liaison avec Dmitri n'a pas eu ce sort, je ne le dois qu'à son attachement entêté et pédantesque, dont la source était dans l'intelligence plutôt que dans le cœur, et que je me serais fait trop de scrupules de trahir. En outre, la règle bizarre que nous nous étions imposée de tout nous dire formait un lien entre nous. Nous avions trop peur, en cas de brouille, de laisser mutuellement au pouvoir de l'autre toutes les vérités morales honteuses que nous nous étions confiées. Il y avait du reste longtemps que nous avions cessé, au point que l'illusion ne fut plus possible pour nous, d'observer la règle en question. Ce qui nous embarrassait et nous créait des relations singulières. Je rencontrai cet hiver-là, chez Dmitri, à peu près toutes les fois que j'y allais, un de ses camarades d'université, nommé Bezobedov, avec qui il travaillait. Bezobedov était un petit homme chétif et grêlé, avec de petites mains couvertes de taches de rousseur et d'immenses cheveux roux pas peignés. Sans éducation, toujours crasseux et déchiré, il n'avait même pas le mérite d'être travailleur. Ses rapports avec Dmitri étaient aussi incompréhensibles pour moi que ceux de Dmitri avec Lioubov Sergueïevna. L'unique raison pour laquelle il avait pu le choisir entre tous ses camarades et se lier avec lui était qu'il n'y en avait pas dans toute l'université qui fût aussi mal tournée. Ce ne pouvait être que pour le plaisir de n'être de la vie de personne que Dmitri lui témoignait de l'amitié. On sentait dans ses relations avec cet étudiant l'orgueil qui se dit « Soyez qui vous voulez, je m'en moque. Vous êtes tous pareils pour moi. J'aime celui-là, donc il est bien. » Je m'étonnais qu'il ne trouvât pas fatigant d'être continuellement obligé de feindre et que le malheureux Bezobedov pu résister à cette situation fausse. Cette liaison me déplaisait fort. Un soir, j'étais allé chez Dmitri avec l'intention de descendre avec lui au salon et d'écouter lire ou chanter Varenka. Je trouvai Bezobedov installé en haut, et Dmitri me répondit sèchement qu'il ne pouvait pas descendre, que je voyais bien qu'il y avait quelqu'un. « Et puis, ajouta-t-il, qu'y a-t-il d'amusant en bas ? Il vaut bien mieux rester ici à bavarder. » Je n'étais nullement flatté de la perspective de passer 2 heures avec Bezobedov, mais je n'osais pas entrer seul au salon. Agacée dans l'âme de la bizarrerie de mon ami, je m'assis dans un fauteuil à bascule et me mis à me balancer sans dire mot. J'étais furieux contre eux de me priver du plaisir d'être en bas. J'attendais pour voir si Bezobédoff n'allait pas bientôt s'en aller, et mon irritation grandissait pendant que je les écoutais en silence. Charmants compagnons, délicieuse société, pensais-je. Lorsqu'un domestique apporta du thé et que Dmitri dut insister 5 fois pour en faire accepter à Bezobédoff, qui croyait de son devoir de refuser les 2 premiers verres et de dire timidement « Après vous ». Dmitri prenait visiblement sur lui pour soutenir la conversation, dans laquelle il essaya en vain de m'attirer. Je me taisais d'un air sombre. « Il n'y a rien à faire, » disais-je moi-même à Dmitri en me balançant en mesure dans mon fauteuil. « Avec un si beau personnage, personne n'oserait même soupçonner que je m'ennuie. » Je trouvais une sorte de jouissance à attiser au-dedans de moi un sentiment de haine sourde contre mon ami. « Quel imbécile !» pensais-je. « Il pourrait passer agréablement sa soirée en famille, mais non, il reste avec cette brute. Et l'heure avance, il va être trop tard pour aller au salon. » Je me retournai dans mon fauteuil et considérai mon ami. Ses mains, sa pose, son cou et surtout sa nuque et ses genoux me paraissaient si insupportables et si agaçants que j'aurais eu du plaisir, en cet instant, à lui faire quelque chose de très désagréable. Bezobédoff finit par se lever, mais Dmitri ne pouvait pas se priver tout d'un coup d'un hôte aussi délicieux. Il lui offrit de coucher. Heureusement, Bezobédoff refusa et se retira. Après l'avoir reconduit, Dmitri se mit à se promener de long en large dans la chambre en me jetant de temps à autre un coup d'œil. Il souriait complaisamment et se frottait les mains. C'était sans doute la double satisfaction de ne pas s'être démenti et d'être enfin débarrassé d'une corvée. Je le détestais de plus en plus. « Comment ose-t-il se promener et sourire ? » pensais-je. « Pourquoi es-tu fâché ? » dit-il tout à coup en s'arrêtant en face de moi. « Je ne suis pas le moins du monde fâché, » repartis-je. « C'est ce qu'on ne manque jamais de répondre dans ce cas-là. « Je suis seulement vexé de te voir faire l'hypocrite vis-à-vis de moi, de Bezobédoff et de toi-même. »« Quelle bêtise ! Je ne fais jamais l'hypocrite avec personne !»« Je n'oublie pas notre règle de tout nous dire et je te parle franchement. Je suis convaincu que ce Bezobédoff t'est aussi insupportable qu'à moi. C'est un sot, et Dieu sait ce qu'il vaut du reste. Seulement, tu trouves agréable de faire l'important devant lui. » « Non. D'abord, Bezobédoff est un charmant garçon. » « Je te dis que si. Je te dirai même que ton amitié avec Lioubov Sergeïevna vient aussi de ce qu'elle te regarde comme un dieu. » « Et moi, je te dis que non. » « Et moi, je te dis que si, je le sais, » répliquai-je avec la chaleur de la colère contenue. « Non, quand j'aime... « Ni louanges ni injures ne peuvent altérer mes sentiments. »« Ce n'est pas vrai !» criai-je en sautant de mon fauteuil et en le regardant en face avec le courage du désespoir. « Ce n'est pas bien ce que tu dis là. Est-ce que tu ne m'as pas dit, pour ton frère, « Je ne veux pas te le rappeler, ce ne serait pas loyal. »« Est-ce que tu ne m'as pas dit, « Je vais te dire comment je le vois à présent. » Et je me mis à lui démontrer qu'il n'aimait personne, en rivalisant avec lui de choses blessantes, et à lui énumérer tous les justes sujets de reproche que je croyais avoir contre lui. La dispute était devenue une altercation. Tout à coup, Dmitri se tut et passa dans la chambre à côté. Je voulus le suivre en continuant à déblatérer, mais il ne me répondait plus. Je savais que la colère figurait sur la liste qu'il avait dressée de ses défauts et qu'il était occupé à se vaincre. Je maudissais ses listes et registres. Et voilà, à quoi nous conduisit notre règle de tout nous dire et de ne jamais parler l'un de l'autre à un tiers. Nous nous laissions entraîner dans des accès de franchise aux aveux les plus éhontés. Et ces aveux, qui desséchaient notre amitié, avaient le double effet de nous enchaîner plus étroitement l'un à l'autre et de nous séparer. Ce jour-là, l'amour-propre empêcha Dmitri de faire un aveu bien simple, et dans la chaleur de la dispute, nous nous servîmes des armes que nous nous étions fournies l'un à l'autre et qui faisaient des blessures terriblement douloureuses. Chapitre 78. Notre belle-mère. Malgré son projet de ne revenir à Moscou avec sa femme qu'après le jour de l'an, papa arriva dès le mois d'octobre, quand la saison était encore excellente pour chasser à court. Il prétexta une affaire, mais Mimi nous raconta que Doxy Vassilievna s'ennuyait tant à la campagne, parlait si souvent de Moscou et feignait si souvent d'être souffrante, que papa s'était décidé à la contenter. « Elle ne l'a jamais aimée, » ajoutait Mimi. « Elle rebattait les oreilles à tout le monde avec sa passion, uniquement parce qu'elle avait envie de faire un mariage riche. » Et Mimi soupirait d'un air pensif, comme pour dire « Ça se serait passé autrement avec certaines personnes, s'il avait su les apprécier. » Les certaines personnes étaient injustes pour Eudoxie Vassilievna. Son amour pour papa, un amour passionné, dévoué, qui lui donnait la soif du sacrifice, éclatait dans toutes ses paroles, dans chacun de ses regards et de ses mouvements. Sa passion, tout en lui faisant désirer de ne jamais se séparer de son époux adoré, ne l'empêcha pourtant pas d'avoir envie d'un petit bonnet très remarquable de chez Madame Annette, d'un chapeau à plumes bleu ciel, également remarquable, et d'une robe de velours de Venise bleu foncé, qui seyait admirablement à ses belles épaules et à ses bras blancs, qu'elle montrait pour la première fois à d'autres que son mari et sa femme de chambre. Catherine était naturellement du parti de sa mère. Dès le jour de l'arrivée de notre belle-mère, il s'établit entre elle, mon frère et moi, des relations badines assez singulières. À peine était-elle descendue de voiture que Volodia, prenant un air sérieux, s'approcha d'elle avec des révérences et des courbettes et dit, du même ton que s'il présentait quelqu'un, « J'ai l'honneur de féliciter ma belle-maman de son arrivée. » Il lui baisa la main. « Ah, cher enfant !» répondit-elle avec son joli sourire stéréotypé. « N'oubliez pas votre second fils » fis-je en m'approchant à mon tour pour lui baiser la main et en imitant involontairement la figure et la voix de Volodia. Si nous étions convaincus de notre affection mutuelle, notre belle-mère et nous, cette façon de s'aborder pouvait vouloir dire que nous dédaignions les démonstrations. Si nous étions, au contraire, mal disposés les uns pour les autres, elle marquait à volonté soit l'ironie, soit notre mépris pour la dissimulation, soit le désir de dérober à notre père la situation vraie, sans compter beaucoup d'autres pensées et sentiments. En réalité, cette attitude, qui s'adapta parfaitement bien à l'humeur de Doxy Vassilievna, ne voulait absolument rien dire, et ne servait qu'à dissimuler l'absence totale de sentiments quelconques. J'ai souvent remarqué par la suite ce même ton de demi-plaisanterie dans d'autres maisons, lorsque la famille pressentait des rapports peu agréables avec l'un de ses membres. Ces sortes de relations artificielles, une fois établies, sans l'avoir prémédité, avec notre belle-mère, nous n'en sortîmes pour ainsi dire jamais. Nous étions avec elle d'une politesse affectée. Nous lui parlions en français, lui faisions des révérences et l'appelions « chère maman ». Elle nous répondait invariablement sur le même ton, accompagnant ses plaisanteries de son éternel joli sourire. Notre pleurnicheuse de sœur, avec ses pieds de canard et ses discours sans phare, était la seule qui aimât notre belle-mère. Elle faisait naïvement des tentatives, parfois très maladroites, pour opérer un rapprochement entre elle et le reste de la famille. En récompense, la seule personne au monde pour qui Eudoxie Vassilievna, en dehors de sa passion pour papa, eut un grain d'affection, était Lioubotchka. Elle lui témoignait même un mélange d'admiration enthousiaste et de respect timide qui m'étonnait fort. Dans les premiers temps, Eudoxie Vassilievna se plaisait à rappeler qu'elle était une belle-mère et à faire allusion aux préventions et à la malveillance des enfants et des domestiques qui rendent la situation des belles-mères difficile. Cependant, tout en prévoyant les désagréments de la situation, elle ne fit rien pour les éviter. Elle ne se donna la peine ni de caresser les uns, ni de faire des cadeaux aux autres, ni d'éviter de gronder. Ce dernier point lui aurait pourtant été extrêmement facile, car elle était naturellement bonne et très peu exigeante. Non seulement elle ne fit rien, mais elle se mit sur la défensive quand personne ne l'attaquait. Imbue de son idée que tous les domestiques ne cherchaient qu'à lui être désagréables et à la blesser, elle vit des intentions partout et prit l'attitude d'une personne qui souffre en silence par dignité. Le résultat fut qu'au lieu de s'attacher nos gens, elle les indisposa. Ce n'est pas tout. J'ai dit combien dans notre maison la faculté de compréhension était développée. Notre belle-mère en était absolument dépourvue. De plus, elle apportait des habitudes tellement différentes des nôtres que cela seul disposait mal à son égard. Notre intérieur était extrêmement propre et ordonné. Elle vivait éternellement comme une personne qui arrive de voyage et n'est pas encore installée. Elle se levait et se couchait tantôt tard, tantôt de bonne heure. Un jour, elle dînait avec nous, le lendemain, non. Un soir, elle soupait, un autre soir, elle ne soupait pas. Quand il n'y avait pas de visite, elle se promenait presque toujours dans la maison à demi vêtue et n'avait pas honte de se montrer à nous, et même aux domestiques, en jupon, blanc, un fichu sur les épaules et les bras nus. Au début, cette simplicité me plut. Au bout de très peu de temps, précisément à cause de cette simplicité, je perdis le peu de respect qui me restait pour notre belle-mère. Une chose nous paraissait encore plus étrange que le reste. Il y avait en elle deux femmes différentes, selon qu'elle était ou non devant le monde. Devant le monde, c'était une belle personne, un peu froide, jeune, brillante de santé, superbement parée, point sotte, point spirituelle non plus, mais gaie. Dès que nous étions entre nous, elle prenait l'air excédé et souffrant d'une femme qui s'assomme, bien qu'elle aime. Elle s'abandonnait, était malpropre et vieillie. Que de fois, lorsque, en revenant de faire des visites, toute rose à cause du froid, elle ôtait son chapeau et allait se regarder en souriant dans la glace, heureuse de se sentir belle. Ou le soir, quand elle passait devant les domestiques pour monter en voiture, fière et confuse en même temps de sa belle toilette de bal décolletée, ou les jours de petite soirée chez nous, lorsque, vêtue d'une robe de soie montante, son cou délicat entouré de fines dentelles, elle souriait à tout le monde de son joli sourire, toujours le même. Que de fois je me suis demandé en la regardant ce que diraient ses admirateurs s'ils la voyaient comme moi les soirs où elle restait à la maison et où elle attendait que son mari revînt du cercle, dépeigné, une espèce de bonnet sur la tête, errant comme une ombre d'une pièce à l'autre. Tantôt elle s'asseyait au piano et jouait une certaine valse, le seul morceau qu'elle sut, en fronçant le sourcil par effort d'attention. Tantôt elle prenait un roman, en lisait une demi-page au hasard et jetait le volume. Tantôt elle allait elle-même à l'office pour ne pas réveiller les domestiques, prenait un concombre et un morceau de veau froid et se mettait à manger, debout devant la petite fenêtre de l'office. Après quoi, l'air ennuyé et las, elle recommençait à rôder, sans but, dans la maison. L'absence complète de « compréhension » fut ce qui contribua le plus à l'isoler de nous. Elle se trahissait surtout par l'air d'attention condescendante avec lequel elle écoutait quand on lui parlait de choses incompréhensibles pour elle. Ce n'était pas sa faute si elle avait pris, sans s'en apercevoir, l'habitude de sourire des lèvres et de hocher la tête lorsqu'on lui racontait des choses qui ne l'intéressaient pas. Rien ne l'intéressait en dehors d'elle-même et de son mari. Mais, quoique ce ne fût pas sa faute, sourire et hochement devenaient insupportables à la longue. Sa gaieté, qui consistait à se moquer d'elle-même, de vous, du monde entier, manquait de naturel. Aussi n'était-elle pas communicative. Sa sensibilité était trop fade. Nous étions surtout choqués de ce qu'elle parlait à tout propos, sans aucune retenue, de son amour pour papa. Elle ne mentait pas quand elle disait que sa passion pour son mari était toute sa vie, et elle le prouvait par toute sa conduite. L'insistance et l'absence d'embarras avec lesquels elle revenait continuellement sur ce sujet n'en étaient pas moins, à notre avis, souverainement déplaisantes. Et nous étions encore plus honteux pour elle quand elle parlait de son amour devant les étrangers que quand elle faisait des fautes de français. Elle aimait son mari plus que tout au monde, et son mari l'aimait, surtout dans les premiers temps, et quand il vit qu'elle plaisait à d'autres que lui. Elle n'avait pas d'autre but dans la vie que de gagner l'affection de son mari. Et pourtant, par maladresse et faute de tact, on aurait dit qu'elle prenait à tâche de faire tout ce qui pouvait être le plus désagréable, toujours dans le but de lui prouver son amour et son empressement à se sacrifier. Ainsi, elle aimait la toilette, et mon père aimait avoir sa femme élégante et admirée. Ma belle-mère crut devoir sacrifier son goût pour la toilette à mon père et prit de plus en plus l'habitude de rester à la maison en peignoir gris. Papa, qui avait toujours considéré la liberté mutuelle comme une condition essentielle de la vie de famille, tenait à ce que sa favorite, Lioubotchka, fût sur un pied d'ouverture et d'amitié avec sa jeune belle-mère. Ma belle-mère se sacrifia et témoigna à la véritable maîtresse de la maison, comme elle appelait ma sœur, un respect très déplacé qui blessait profondément papa. Il passait ses soirées au jeu, et vers la fin de l'hiver, il perdit beaucoup. Il n'en parla à personne à la maison, car il avait pour principe que les affaires de jeu ne doivent pas intervenir dans la vie de famille. Ma belle-mère se sacrifia, et elle jugea de son devoir, même malade, même enceinte, d'aller en peignoir au-devant de papa lorsqu'il rentrait du cercle à 4 ou 5 heures du matin, rompu, honteux, le gousset vide. Elle lui demandait distraitement s'il avait été heureux au jeu, et écoutait la réponse avec son air de condescendance, souriant et hochant la tête, tandis qu'il lui racontait ce qu'il avait fait au cercle et qu'il la priait pour la 100e fois de ne jamais l'attendre. Mais il avait beau la prier, elle persévérait le lendemain à l'attendre, bien qu'elle ne s'intéressât pas le moins du monde à son jeu, d'où dépendait pourtant la fortune de papa. Il faut dire qu'outre la passion de se sacrifier, elle était aussi poussée dans ces occasions par une jalousie qui la faisait beaucoup souffrir. Il était impossible de lui persuader que papa revenait réellement du cercle, et non d'ailleurs. Elle s'efforçait de lire sur son visage ses secrets de cœur, et ne lisant rien du tout, elle soupirait, jouissant de son propre chagrin, et se livrait à la contemplation de son infortune. Grâce à ses perpétuels sacrifices, on pouvait déjà remarquer, vers la fin de l'hiver, un changement dans les sentiments de papa. Il avait beaucoup perdu, était souvent de très mauvaise humeur, et s'en prenait à sa jeune femme. Il en était déjà par moments à la haine sourde, à cette aversion contenue pour ce qu'on a aimé, qui se traduit par une tendance inconsciente à causer à l'objet de son ancienne affection toute espèce de petits désagréments moraux. Chapitre 79 Où je m'effondre. L'époque de mon premier examen sur le calcul différentiel et intégral était arrivée, et j'étais encore dans une sorte de brouillard, incapable de me rendre un compte net de ce qui m'attendait. Le soir, en quittant mes camarades, j'avais une vague idée que tout n'allait pas au mieux et qu'il y aurait peut-être lieu de modifier mes manières de voir et de faire. Le lever du soleil me retrouvait dans mon assiette, enchanté d'y être, et sans la moindre envie de changer quoi que ce soit en moi. J'étais dans cet état de satisfaction en me rendant à mon premier examen. Je m'assis sur un banc, du côté où se trouvaient les princes, les comtes et les barons. Je me mis à causer avec eux en français, et chose étrange, je ne pensais pas un seul instant que j'allais être interrogé sur des sujets dont je ne savais pas le premier mot. Je regardais tranquillement ce qui allait passer, et je me permettais même, à l'occasion, de me moquer d'eux. « Eh bien, Grappe, demandai-je à Eileen, qui revenait de la table d'examen, « avez-vous eu peur ?»« Nous allons voir comment vous vous en tirerez, » répliqua Eileen, qui, depuis son entrée à l'université, s'était complètement insurgée contre ma domination. Il ne souriait plus quand je lui parlais, et était mal disposé pour moi. Je souris dédaigneusement, bien que le doute qu'il venait d'exprimer m'eût causé une seconde de trouble. Ma frayeur se fondit presque aussitôt dans le brouillard dont j'ai parlé, et je me sentis de nouveau l'esprit si libre et si insouciant que je promis au baron Z d'aller prendre quelque chose avec lui après l'examen, comme si l'examen pour moi n'était rien du tout. Quand on appela mon nom, je rajustai mon uniforme et m'avançai avec le plus parfait sang-froid. Ce fut seulement en me penchant pour tirer au sort ma question que je sentis un léger frisson me courir dans le dos. Je répondis très mal. Je tirai une seconde question et je ne répondis pas un seul mot. Le professeur me regarda d'un air de pitié et dit d'une voix douce, mais ferme, « Vous êtes refusé, monsieur Hirteneff. Il faut nettoyer la faculté. » Je ne me rappelle pas comment je fis pour traverser la salle, ni ce que je répondis aux questions des étudiants, ni comment j'arrivai à la maison. J'étais humilié, blessé, profondément malheureux. Je fus 3 jours sans sortir de ma chambre et sans voir personne. Je trouvais du plaisir à pleurer, comme quand j'étais enfant, et je versais des flots de larmes. Je cherchais des pistolets pour me tuer si l'envie en devenait trop forte. Je pensais qu'Eileen Grappe me cracherait à la figure quand il me rencontrerait, et qu'il aurait raison. Que tel de mes camarades se réjouirait de mon infortune et la raconterait devant tout le monde. Que les bêtises que j'avais dites à la princesse Kornakoff devaient nécessairement me mener là, etc. Toutes les minutes de mon existence qui avaient été pénibles pour mon amour-propre me revinrent l'une après l'autre à la mémoire. Je cherchais quelqu'un à accuser de mon malheur. Je me figurais que ce quelqu'un l'avait fait exprès. J'inventais toute une intrigue ourdie contre moi. Je déblatérai contre les professeurs, contre mes camarades, contre Volodia, contre Dmitri, contre papa, qui m'avait fait entrer à l'université, contre la Providence, qui avait permis que je fusse couvert d'un tel opprobre. Finalement, sentant que j'étais fini pour toujours aux yeux de tous ceux qui me connaissaient, je demandai à papa la permission de m'engager dans les hussards ou de partir pour le Caucase. Papa était mécontent de moi, mais, en me voyant si malheureux, il me consola et m'expliqua que je n'étais pas déshonoré, que tout pourrait encore s'arranger, je n'avais qu'à entrer dans une autre faculté. Volodia, qui ne trouvait pas non plus mon malheur si terrible, ajouta qu'en changeant de faculté, j'aurais de nouveaux camarades devant lesquels je n'aurais pas à rougir. Les dames de la maison ne comprenaient pas et ne voulaient ni ne pouvaient comprendre en quoi consiste un examen. Elles me plaignaient, mais uniquement parce qu'elles me voyaient du chagrin. Dmitri venait me voir tous les jours. Il fut pendant tout ce temps extrêmement bon et affectueux. Mais justement à cause de cela, il me semblait refroidi pour moi. J'éprouvais une impression douloureuse et pénible chaque fois qu'il entrait dans ma chambre et venait s'asseoir tout près de moi, un peu avec la physionomie du médecin qui s'assoit auprès du lit d'un malade condamné. Sophie Ivanovna et Varenka m'envoyèrent par lui des livres dont j'avais eu envie et me firent dire d'aller les voir. Je vis dans leurs attentions l'indulgence orgueilleuse et blessante que l'on témoigne à un homme tombé au plus bas. Au bout de 3 ou 4 jours, je me calmai un peu. Toutefois, jusqu'à notre départ pour la campagne, je refusais de mettre le pied dans la rue. Je rôdais dans la maison, désœuvré, cherchant à éviter les domestiques, pensant et repensant éternellement à mon malheur. Je pensais. Et enfin, un soir qu'il était tard et que j'étais seule en bas, écoutant la valse de ma belle-mère, je me levai d'un bond, grimpai à ma chambre et cherchai le cahier sur lequel étaient écrits ces mots « Règles de vie ». Je l'ouvris et j'eus alors une minute de repentir et comme un élan moral. Je pleurais, mais ce n'était plus des larmes de désespoir. Quand je fus un peu calmée, je pris de nouveau la résolution de me rédiger des règles de vie. J'étais fermement convaincue que je ne ferais plus jamais rien de mal, que je n'aurais plus jamais une minute de désœuvrement, et que je ne changerais jamais rien à mes règles. Je raconterai dans la seconde partie de ma jeunesse combien de temps dura ce beau zèle, ce qu'il produisit, et quel nouveau principe il donna pour fondement à mon développement moral.